Place maintenant à un témoignage utile à double titre. D'une part, parce qu'il va résonner avec ce que vivent de nombreuses familles ici.
Bonjour.
D'autre part, parce que la personne en question a mené une démarche importante pour aider les familles en écrivant un guide très pratique et complet. Madame Marie-Laure Guillot, vous êtes auteure, ex-soignante et ancienne aidante. Pouvez-vous nous expliquer votre riche parcours de soignante toujours à l'hôpital ?
Bonjour à tous. Cette démarche d'écrire un livre est venue tout naturellement puisque je me suis retrouvée dans la situation où vous êtes probablement aujourd'hui. Et mon parcours professionnel m'a aidée puisque j'étais kinésithérapeute, ce qui fait que kinésithérapeute, c'était à l'hôpital. Toute ma vie, je l'ai passée à l'hôpital public, donc proche des patients, à pouvoir les toucher, à pouvoir les écouter, à pouvoir comprendre comment fonctionne la mécanique de la mémoire et la mécanique du corps. Ensuite, j'étais cadre de santé et avec un parcours assez riche qui allait de la direction d'une MAS, c'est-à-dire une maison spécialisée avec des grands handicapés, et j'ai fini avec des services de psychiatrie, en passant par les urgences, la chirurgie. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu la chance de côtoyer tous ces mondes physiques et mentaux, et surtout de pouvoir, au-delà des patients, discuter avec les familles. Et certainement, par la suite, ça m'a aidée pour le propre parcours d'aidante qui a été le mien pendant 12 ans.
Voilà, parce que par ailleurs, vous êtes devenue aidante de vos deux parents.
Voilà.
Vous dites que aider, c'est dans la nature des choses. Et ce n'est pas une évidence peut-être pour tout le monde.
Alors, effectivement, mes parents sont devenus âgés, ils sont devenus dépendants, et c'est vrai qu'aider, pour moi, ça a été quelque chose de naturel. Alors, est-ce que ça vient de mon métier, de ma nature, ou aujourd'hui, on parle beaucoup d'aidance comme de quelque chose de difficile, de hors du commun, de tout à fait à part, alors qu'à un moment ou un autre de notre vie, on sera forcément aidant. Et d'ailleurs, on le voit parce que y a des jeunes, comme la dame, comme vous venez de le dire, c'est à tout âge. Et ça peut ne pas être dramatique. C'est difficile, mais ça peut ne pas être dramatique. C'est fatigant, c'est vrai. Mais j'ai voulu justement témoigner du fait qu'on peut faire ça simplement, avec de la logique, avec beaucoup d'aide. On l'a entendu aujourd'hui, il existe énormément d'aides. On ne les connaît pas tous. Et c'est aussi l'objectif du livre.
Vous, quand on a préparé ensemble votre présentation, vous avez insisté sur le fait que la maladie d'Alzheimer est particulièrement compliquée pour la personne et son entourage, parce qu'elle implique des décisions difficiles.
Oui, alors c'est vrai que mes parents avaient à peu près le même âge, donc vieillissaient tous les deux. Mon père, comme on l'a dit, comme je l'ai entendu, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement curieux, et certainement il a reculé, ce que j'ai découvert, le moment où la maladie s'est déclarée grâce à toutes ces réflexions. Je ne me suis pas rendu compte, on en a discuté avec ma sœur, il écrivait de plus en plus quand il lisait, il écrivait, il annotait, il réfléchissait. Et ça, à aucun moment, on a pu penser que c'était le début de la maladie qui faisait ça. Et c'est vraiment compliqué une fois que... Enfin, compliqué. Parfois douloureux, cette maladie, oui. Parce que ça amène à des situations qu'on n'aura pas et que peut-être vous avez connues, comme des prises de décision sur la mise sous tutelle. Donc ça, j'en parle dans mon livre, parce que l'idée première du livre, c'est de tout préparer, tout anticiper. À tel point, j'ai commencé le livre à on est à la retraite. Voilà, on est à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a beau tout anticiper, en tant qu'aidante, en tant que famille, il y a des choses comme la mise sous tutelle qui sont douloureuses. C'est, pour moi, c'est un souvenir, c'est ça, hein. Je vais le raconter, mais c'est un souvenir douloureux, certainement un des plus douloureux de ma vie. C'est le fait où, le jour avec mon père, je suis allée chez le psychiatre pour sa mise sous tutelle. Évidemment, mon père ne savait pas qu'il était Alzheimer. Et sa maladie a duré 12 ans, il ne l'a jamais su. Et donc le psychiatre lui a expliqué que à partir de ce moment, c'est plus lui qui déciderait, c'est moi qui déciderais pour lui. Et mon père s'est tourné vers moi et m'a regardé, et il y avait tellement de détresse dans ses yeux. En fait, il y a eu de l'incompréhension. Après, de la détresse, une profonde détresse, et après, de la confiance. Voilà, tout d'un coup, il s'est dit, bah, faut que je fasse confiance. J'ai eu cette chance. Mais voilà, ça, c'est des moments extrêmement difficiles. Le reste du temps, je peux dire que l'accompagnement était quand même assez heureux. Assez heureux parce que bien préparé.
Oui, la relation avec votre père, justement, vous avez envie d'en parler et de vous inscrire en faux peut-être à certains aidants qui disent qu'ils sont devenus le parent de leurs parents. Et vous, vous avez une autre vision de la chose.
Ah oui, totalement. Ce livre, c'est pour mon père que je l'ai écrit. J'avais commencé des petites idées et puis en fait, je l'ai écrit pour lui. Et c'est vrai que chacun, loin de moi, tout jugement, et chacun vit comme il peut cet accompagnement, mais je ne suis jamais devenue le parent de mes parents. Jamais, jamais. Mon père, c'était mon père, ma mère, c'était ma mère. Et même si j'accompagnais ma mère pour aller aux toilettes, pour faire son change, pour tout ça, l'instant d'après, quand je la raccompagnais au fauteuil, je me mettais à genoux et je posais ma tête sur ses genoux et c'était ma mère. À aucun moment, je trouve terrible qu'on puisse réduire les gens comme ça à un état infantile. On parle tous de notre père, notre mère, notre mari, notre femme, notre frère. Et je crois que l'objectif, enfin, tout ça, c'est effectivement, c'est chacun son chemin, hein, c'est très personnel. Mais c'est de découvrir une nouvelle personne. Où est, c'est vrai qu'on a tendance, et je l'ai fait, et ma sœur l'a fait, ma mère l'a fait, on cherche à ressusciter, à réactiver la personne que l'on connaissait. Et en fait, on s'est aperçu que ça l'a fait souffrir, cette personne. Donc, petit à petit, je me suis mise à l'écoute de découvrir qui était mon père maintenant. C'est-à-dire qu'il était différent. C'est toujours mon père parce qu'il y a le lien, parce qu'il y a l'amour. Mais c'est une personne différente. Alors comment communiquer avec elle sans la faire souffrir? Puisque, une chose toute simple. Hein, si je lui disais par exemple, allez viens, on va jouer au triomino. Et puis au moment, je voyais, c'était dur. On va jouer au domino. Et voilà, c'était moins dur. Tout simplement, je crois qu'à vouloir rechercher et entretenir la personne telle qu'elle était, on la fait souffrir. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, de la souffrance de la personne Alzheimer.
Alors, il faut dire quand même que votre père a bénéficié d'un traitement qui a ralenti l'avancée de la maladie et qu'il vous a reconnu.
Jusqu'à
il
la
savait
fin.
Qui vous étiez. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pas le cas de tous les malades, malheureusement.
Oui. Là, j'ai effectivement cette maladie s'est déclarée à 80 ans. Et il a vécu jusqu'à 93. À 93, il nous reconnaissait encore. Donc, il perdait ses souvenirs proches. Il avait quelques souvenirs lointains. Il était effectivement très dépendant. Mais j'ai eu cette chance que beaucoup d'autres personnes n'ont pas. Malgré tout, aussi idyllique que je puisse le dire, Il était parfois agressif, il ne voulait pas manger, enfin, toutes les phases de cette maladie. Et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de réfléchir et d'écrire tout ce que nous avions découvert, tout ce qu'il était possible de faire, tout ce qui existait comme accompagnement.
Oui, l'idée, c'est que les familles ne refassent pas forcément les mêmes recherches que vous avez été amenée à faire.
Oui, je pense que tout le monde... D'ailleurs, on a entendu le fait qu'il existe plusieurs types d'aides qui, même entre eux, ne communiquent pas, ne se connaissent pas. Donc, c'est-à-dire que le réseau est complètement entrecoupé. Il y a aussi les recherches financières. Les recherches financières, c'est beaucoup de temps. Est-ce que j'ai droit à ça? Est-ce que je peux avoir ça? Et alors, j'ai découvert... En fait, je me suis dit, bon, moi, je ne comprends rien du tout à toutes ces aides financières. Et évidemment, j'écrivais sur un ordinateur. Et j'ai dit, ah non, mais ce n'est pas possible. Je prends un papier, un crayon. Et en fait, le nombre d'aides qui existent, en partant de l'aide au logement, de l'aide, etc., enfin, tout ce qui peut exister pour aider au vieillissement, à la dépendance ou au handicap, ça m'a fait 8 pages à 4. Que j'ai résumé en un tableau, hein, quand même, parce que ça, sinon, 8 pages à 4, c'était un peu pénible. Et voilà, donc, dans ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est... en fait, on l'a entendu un peu aujourd'hui, c'est-à-dire, on est à la retraite, donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester en forme? Alors, je ne savais pas qu'en plus, ça pouvait ralentir ou reculer la déclaration de la maladie d'Alzheimer. Et puis, voilà, tout ce qui existe aussi comme aide, on entend beaucoup parler en ce moment des EHPAD, hein, malheureusement, tout ce qui existe d'autre comme aide.
Vous avez mis combien de temps pour faire toutes ces recherches et écrire ce guide, finalement ?
J'avoue que ce qui a été le plus laborieux, et qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, c'était justement tout ce qui est des recherches financières, des aides. Ce qui a pris beaucoup de temps aussi, et j'espère avoir été exhaustive, je pense, qui m'a pris plusieurs mois, c'est savoir tout ce qui existe avant l'EHPAD. Tout ce qui va de l'atelier mémoire dont vous parliez, de tout ce qui est diagnostic dont vous parliez, qui doit être pris assez tôt d'ailleurs. Et ça, c'est dommage parce qu'on ne sait pas forcément. Si on veut faire des hôpitaux de jour, il faut le faire assez précocement pour que ce soit efficace. Tout ce qui est de répit aussi pour les aidants. On ne sait pas qu'il existe des centres de vacances, qu'il existe des familles d'accueil. Il y a le baluchonnage qui se met en place en France. Énormément de choses avant l'EHPAD.
Donc vous avez regroupé tous ces aspects dans un guide pratique. Qui aborde les différents aspects du vieillissement. Pas uniquement la maladie d'Alzheimer, loin de là. Il y a aussi un chapitre sur la sexualité de la personne âgée, par exemple. Oui, oui. Un chapitre sur la nourriture. Oui. Décrivez-nous un petit peu les différents chapitres de votre ouvrage.
Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Il faudrait une anti-sèche parce que je me rappelle pas.
L'incontinence, mais j'avais noté tout
voilà,
ça.
C'est ça.
Vraiment une aide pratique pour les personnes au quotidien.
Oui. Il y a des effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai été soignante aussi et puis j'ai fait pas mal de choses et notamment. Je faisais de l'ergonomie, j'étais professeure d'ergonomie, et donc j'ai été appelée dans une maison de retraite pour maltraitance des personnes âgées. Et tout ce vécu fait que je me suis aperçue qu'on voilà, on parlait pas de sexualité, pourquoi on était violent, pourquoi on mettait des couches avant de réfléchir à la raison pour laquelle la personne était incontinente. Ça peut, c'est pas forcément une vraie incontinence. Enfin, il y a plein de raisons. Après, à quoi était due l'agressivité? Comment faire si quelqu'un refuse de manger? Pourquoi tout d'un coup les gens devenaient mutiques? physique, hein, voulait plus du tout parler. Et effectivement, la sexualité, parce qu'elle existe, et on n'en parle jamais, parce qu'on est comme ça. Hein. De toute façon, en France, on ne voit pas les personnes qui sont trop vieillissantes, qui sont en fauteuil roulant, qui sont handicapées, qui sont... Et pourtant, il y a mille façons d'approcher les choses de façon à ce que ce soit bien vécu, ou mieux vécu, ou moins dramatique.
Voilà, donc ce guide qui vise à faciliter le quotidien des familles concernées s'appelle « Préparer sa dépendance et celle de ses proches ». L'éditeur, c'est Erol. Et il est disponible depuis septembre 2024. Y a-t-il des questions dans la salle autour de cette démarche d'aide aux familles, au sujet de ce guide, peut-être ?
Madame Guillot, j'ai une petite question. Est-ce que vous êtes de la région ?
Non.
D'accord. Parce que, à ma connaissance, dans la plupart des consultations mémoire, hospitalières ou libérales, il y a un accompagnement des familles qui est prévu, accompagnement sur tous les sujets dont vous avez parlé. Donc, soit par les consultations mémoire, il y a une assistante sociale, enfin voilà, il y a différents professionnels qui font partie de la consultation mémoire, et également à la maison des aidants ou la plateforme de répit qui propose un accompagnement sur tous les sujets, ou France Alzheimer, ou voilà, sur le sujet financier, enfin voilà, des sujets qui sont vraiment, on rentre dans la maladie d'Alzheimer, on découvre plein de, c'est une grande découverte, et normalement les familles sont aidées dans cette découverte.
Oui, j'en doute pas, encore faut-il qu'elles arrivent jusqu'à vous, et ce livre s'adresse au vieillissement d'une manière générale, à Alzheimer aussi. Mais pour avoir cherché, pour m'être enseignée, ne serait-ce qu'auprès d'une assistante sociale de la ville, je peux vous assurer que malheureusement, elle m'a été d'aucune aide. Parce que heureusement, il y a des gens qui ont la chance d'aller jusqu'à vous. Et lorsqu'ils y arrivent, bien entendu, vous leur apportez l'aide. Et le but du livre, c'est justement de dire « voilà tout ce qui existe ». N'hésitez pas, vous pouvez vous faire aider, poser des questions, rechercher. Oui, exactement, vous avez raison, il existe beaucoup de choses. De la même façon, il y a tout un chapitre sur l'EHPAD et j'explique comment faire pour mettre... Enfin, lorsqu'on veut placer quelqu'un en EHPAD... Voilà, il faut oser. D'une manière générale, il faut oser. Mais tout le monde n'a pas le même parcours, tout le monde n'a pas la même facilité à rechercher sur Internet ou à oser poser les questions. Donc c'est aussi un livre pour encourager à ça.
Tous les territoires ne sont pas égaux également.
Ah oui,
il faut le dire. Il y a aussi des EHPAD heureuses. En tout cas, merci beaucoup pour votre livre. Moi, j'aurais grand plaisir à le découvrir.
Eh ben, c'est aimable à vous. Merci. Je l'ai écrit pour vous. Et j'espère d'ailleurs faire une convention avec la Fondation pour que l'entièreté des bénéfices, s'il y en a, j'espère, aille à la Fondation.
Notre question,
madame. Oui, s'il vous plaît. On est à l'heure où on reconnaît le statut d'aidant. On parle des aidants partout. Et durant tout votre témoignage, vous n'avez jamais prononcé le mot, vous avez toujours dit accompagnement. Est-ce que c'est gênant pour vous d'être reconnu comme aidant ? Parce que vous avez dit que vous étiez la fille de votre père et que votre père était... Voilà, c'était... Le statut ne pose même pas de questions. Donc, est-ce que c'est gênant pour vous le terme aidant ? Est-ce que c'est gênant de reconnaître un statut spécifique pour un enfant qui aide son père ou sa mère ? Est-ce que cette question...
Alors, non. Non, c'est un mot. D'abord, c'est un mot magnifique. Hein, aider, c'est magnifique. Être aidant, c'est magnifique. Comme je le disais, pour moi, c'est dans la nature humaine hein, d'être aidant. D'ailleurs, on est dans une civilisation où, à titre individuel, on est aidant, et puis, mais d'une manière générale, il y a l'accompagnement de nos anciens n'est pas forcément remarquable. C'est une aparté de société. Mais non, il y a toute une partie du livre, d'ailleurs, qui répond à la question qui vous a été posée, mais de mémoire, je ne saurais pas le reprendre. Il y a des aides financières pour les aidants. Il existe des statuts aussi particuliers dont ils peuvent se prévaloir. Non, ce que je n'aime pas, c'est le côté misérabiliste où on a l'air de dire que l'aidant a toute la misère du monde qui repose sur ses épaules. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est aidant, c'est un échange. On donne, mais on reçoit aussi. Bien sûr, c'est de la fatigue. C'est pour ça, vous avez raison, il faut trouver des ressources, il faut trouver des répits. Il faut pas... En plus, aidant, je veux dire, c'est très réducteur. La personne n'est pas qu'une aidante. C'est une personne qui aide. Je préfère ça. Voilà, c'est une personne qui aide.
Merci beaucoup.
Ah oui, mais si, il y avait des traitements. Il va en sortir un qui, alors si j'ai bien compris, qui va être efficace sur le... Mais il existait, peut-être vous sauriez mieux répondre que moi, il existe déjà des traitements sous forme de patch et de comprimés. Et mon père a bénéficié de traitements qui ont ralenti, me semble-t-il, l'évolution de sa maladie. Vous pourriez répondre mieux que moi. Voilà. Voilà, donc monsieur qui a plus de science que moi dit que ce sont des traitements symptomatiques, qui s'attaquent aux symptômes, mais qui ne changent pas, qui n'ont pas un effet direct sur la maladie. Mais ça a été malgré tout très efficace. Enfin, suffisamment efficace sur mon père
pour qu'un dialogue reste possible
et puis pour qu'il enfin oui l'accompagnement a été bien fait.
Question. Alors moi c'est encore pas une question, mais en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage qui est très émouvant et très touchant.
Merci, je ne vous vois pas.
On a énormément de contacts avec les familles, les aidants, et c'est vrai qu'on a des personnes malades, nous jeunes, même très jeunes, et c'est vrai que pour les familles, c'est une souffrance de faire le deuil de la personne qu'ils ont connue, et de toutes les connaissances qu'elles avaient. Et justement, elles ont ce rôle que vous n'aimez pas, mais qui est parfois inversé. Elles sont là pour les réveiller, pour aller chez nous, à l'accueil de jour, pour des rendez-vous, pour leurs loisirs, pour le quotidien, les gestes du quotidien qu'elles ont oubliés. Donc, c'est vrai que c'est... Elles ont ce rôle-là et elles ont beaucoup de mal et c'est vraiment une souffrance. Et après, bon, on n'est pas les seuls, mais on est là pour les écouter et conseiller et parfois les diriger quand on... Voilà, et c'est pour ça que c'est bien qu'on est ici pour justement connaître tout ce qui peut exister.
Vous parlez des familles. Hein.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est vrai que...
Merci à vous.
Je pense aussi qu'il existe des systèmes d'aide et d'accompagnement, des aides ménagères, des aides à la toilette, des aides soignantes, c'est-à-dire des professionnels financièrement qui peuvent ne pas être trop coûteux parce qu'il y a des aides pour ça, en fonction des revenus, en fonction de déductions d'impôts. Et je pense qu'il faut absolument les utiliser. C'est-à-dire que si on parle par exemple d'être une fille ou un garçon, il faut garder cette place. On ne peut pas se... Enfin, il n'est pas... Comment je dirais... il n'est pas sain... C'est un peu violent, mais bon, il n'est pas sain de se substituer à la personne soignante. Il faut vraiment garder, si on veut garder un lien, si on veut garder un regard, et que d'un autre côté, on se réduit par amour, hein, par dévouement à la toilette, à essuyer la figure, moucher le nez, faire manger, etc. On fait du mal aux deux. On fait du mal aux deux. Il faut introduire les professionnels le plus vite possible pour garder ce lien autre.
Merci beaucoup, Madame
Guillaume. Merci à tous. Merci.